David ouvrir vos Bibles dans le livre des Actes, chapitre 26. Actes des apôtres. Il est dit l'acte des apôtres, mais c'est les actes du Saint-Esprit, car c'est lui, dans les actes, qui bouge tout. Et voilà, c'est chapitre 26. On ne va pas lire le chapitre, hein, mais je vous donne un peu le compte rendu. Il y a Paul qui se trouve devant Agrippa. Et là, il lui explique ce qu'a été sa conversion, comment il s'est déroulé, pour qui il travaille, tout ce qu'il a fait. Et Agrippa, en écoutant tout cela, on passe au verset 28, que c'est le centre de mon message. Voilà, Agrippa, une fois qu'il a entendu tout ça, voilà ce qu'il lui dit. Et Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Au verset 29, Paul lui répond, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore à tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, à l'exception de ces liens. Voilà, c'est ce que Agrippa il dit, c'est là que j'ai retiré mon message. Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Chrétien. Devenir chrétien. Qu'est-ce que ça signifie être chrétien? Et Paul, il lui dit, hein, il lui dit, que ce soit bientôt, que ce soit tard, plaise à Dieu, que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez comme moi. Il était quoi, Paul? Paul, il était chrétien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être chrétien? On l'entend très souvent, mais qu'est-ce que ça signifie, être chrétien? Je regardais dans le petit Larousse, voilà ce qu'il dit. Il dit, c'est lui qui appartient à l'une des religions issues de la prédication du Christ. C'est bon comme... mais ce n'est pas tout à fait ce que la Bible nous présente. Ce n'est pas tout à fait ce que la Bible nous présente. C'est un bon point de départ, mais dans le sens biblique, ce n'est pas tout à fait ça. Qu'est-ce que ça signifie être chrétien dans le biblique? Le mot chrétien, on le trouve trois fois dans la Bible. Hein? On le trouve dans Actes 11, on le trouve aussi dans Pierre, et ici, un Pierre. Mais c'est surtout dans Actes 11, c'est la première fois où les apôtres, ils ont été appelés chrétiens. Voilà. Pourquoi est-ce qu'ils ont été appelés des chrétiens? Parce que justement, hein, ils utilisent ces mots-là, leur activité, leur discours, leur façon d'agir, ils reflétaient Jésus-Christ. Voilà ce que ça signifie être chrétien. Être chrétien, c'est adhérer, être adhérent ou être disciple de Jésus-Christ. C'est ça. Et c'est ça être chrétien. Aujourd'hui, malheureusement, le mot a perdu un peu de son vrai sens. Aujourd'hui, être chrétien, c'est avoir des valeurs morales, bien se comporter, bien agir envers les autres pour ne pas avoir des retombées. Mais ce n'est pas ça que la parole de Dieu nous dit. Et surtout, beaucoup ils disent « Je suis chrétien parce que je donne, j'ai accompli de bonnes œuvres. » Et ça, c'est encore un faux enseignement qui a perduré. Et tout ça, c'est depuis les commencements. Car Caïn, il avait cette même pensée. « Je donne à Dieu, je donne les fruits de mon travail. » Et Dieu, il est obligé de m'accepter. Mais tous ceux qui se confient dans leurs bonnes œuvres, ils sont sur un mauvais chemin. Parce que regardez ce que nous lisons dans Tite, chapitre 3, verset 5. Il nous est dit, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas en faisant des œuvres. D'ailleurs, Agrippa, il nous l'a dit. Il a dit, tu vas me persuader de devenir chrétien. Chrétien, on ne naît pas chrétien. On le devient. On le devient. Comment est-ce qu'on devient chrétien? Qui c'est un chrétien? Un chrétien, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Vous vous en souvenez dans Jean 3, à Nicodème, un homme religieux, Jésus il a dit, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne rentreras pas dans le royaume de Dieu. Elle dit, mais comment peut-on rentrer dans le sein de notre mère et naître de nouveau? Et Jésus lui a dit, ce n'est pas de la chair et du sang, mais ça vient de Dieu. C'est-à-dire que le chrétien, c'est celui qui est né de Dieu. Celui qui est né de Dieu. Un chrétien, c'est quelqu'un qui ne se confie pas dans ses propres œuvres, mais qui se confie dans la foi en Jésus-Christ. Éphésiens 2, verset 8. Chacun il connaît, hein? C'est par grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas parce que nous le méritons. Non, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Par les moyens de la foi. Avoir la foi. En qui? En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Hein? Être chrétien, c'est quelqu'un qui s'est repenti, qui a confessé ses péchés. C'est celui qui a reconnu qu'il ne méritait rien de Dieu et qui s'est fié en Dieu afin qu'il puisse recevoir sa grâce. Encore une fois, comme je vous ai dit, ce n'est pas qu'on est chrétien. Ce n'est pas parce qu'on est né dans une famille chrétienne qu'on est chrétien. On le devient. On doit vouloir devenir chrétien. Voilà pourquoi le frère, il nous a lu ce verset dans Matthieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués ou chargés, qui avez soif. Venez à moi. C'est un choix. Si on ne va pas vers Jésus, on ne sera jamais chrétien. Et c'est ça, ce que ça veut dire être un chrétien. Être chrétien, c'est être un enfant de Dieu. Il nous est dit dans Jean, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Avant de devenir enfants de Dieu, nous étions enfants du malin, enfants du diable. Car il y a deux choses à savoir. Si on n'est pas enfant de Dieu, on est enfant du diable. C'est ça. Voilà ce que c'est un chrétien. Et aussi, chrétien, c'est aimer son prochain. Et surtout, hein, obéir. Regardez le verset dans 1 Jean, le premier épître de Jean. 1 Jean, chapitre 2. Le verset 4. C'est lui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Mais c'est lui qui garde sa parole. L'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme lui, il a marché. Bien-aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien. Il a toujours été là, ce commandement. Ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous. Car les ténèbres se dissipent à la lumière véritable, paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé leurs yeux. Voilà un chrétien. C'est celui qui aime ses frères et sœurs. C'est celui qui aime son prochain. Et c'est celui qui obéit au commandement que Dieu lui a donné. C'est ça être chrétien. Et pas se dire, Dieu c'est Dieu, moi c'est moi. Dieu il a dit ça, mais peut-être qu'aujourd'hui c'est plus valable. Lorsque Dieu dit une chose, elle est valable pour toujours. Dieu, il ne se rétracte jamais. Jamais. Voilà ce qu'est un chrétien. La seule chose qu'il faut se demander, c'est, le sommes-nous? Le sommes-nous? Si notre réponse est oui, nous devons nous réjouir. Pourquoi? Parce que Dieu... Si nous sommes des vrais chrétiens, Dieu, il a en réserve pour nous quelque chose de formidable. Il nous a préparé une place formidable dans laquelle nous n'aurons plus besoin de rien. Pourquoi? Parce que nous avons le tout. Nous avons Christ. Par contre, si vous n'êtes pas un chrétien, peut-être que vous croyez être chrétien, mais vous n'avez pas vécu toutes ces choses-là. Alors, vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas enfant de Dieu. Et si vous ne prenez pas garde, vous allez subir ce que Dieu a réservé pour tous ceux qui ne veulent pas faire leur volonté, sa volonté. Et c'est l'enfer. Et encore une fois, Dieu ne désire pas que nous allions à l'enfer. Si nous allons, c'est notre faute. C'est parce que je le veux. Voilà pourquoi c'est très important. Et c'est à nous de prendre la décision. Pourquoi? Parce que l'éternité est en jeu. C'est pas 30, 40, 50 ans, 60 que nous sommes là sur cette terre. C'est l'éternité qui est en jeu. Où est-ce que nous allons passer l'éternité? En tant que chrétien auprès de Dieu ou en tant que païen dans l'enfer. Et l'enfer, ce n'est pas le club méditerranéen. Hein? Si vous regardez la Bible, vous voyez bien qu'est-ce que c'est l'enfer. Un lieu de souffrance, de peine. Et en plus, on est conscient. Voilà pourquoi c'est à chacun de nous de prendre la décision. Et ce matin, je désire vous donner 5 étapes bibliques par lesquelles on doit passer si on veut devenir chrétien. Si vous êtes chrétien, si vous avez passé ces étapes-là, nous sommes heureux. Mais si encore vous ne l'êtes pas, ou vous voulez le devenir, voilà les 5 étapes qui sont indispensables. Car sans ces étapes, on ne peut pas être agréable à Dieu, être chrétien. La première étape, c'est que on doit nous assurer que nous comprenons bien qu'est-ce que c'est que le salut. Est-ce que tous ils comprennent qu'est-ce que c'est que le salut? On vient de, le dernier cantique qu'on a chanté, ben c'est ça. Hein? Il nous parle du salut que nous avons reçu en Jésus-Christ. Il faut bien comprendre cela. En Jean 5, verset 13, il nous dit, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, pourquoi ces choses-là, elles ont été écrites? Clair ici, hein? Que vous avez la vie éternelle. On a la vie éternelle. Si nous mourons physiquement, nous avons cette vie éternelle qui ne s'arrête pas. C'est là que la vie commence. Mais il nous a dit, vous avez la vie éternelle. Pour qui c'est la vie éternelle? Vous continuez à lire, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous en souvenez ce passage dans lequel les gens ils se présentent devant Jésus et lui disent, Seigneur, nous avons accompli des miracles, nous avons fait ça pour toi, nous avons fait ça, nous avons témoigné, évangélisé. Et Seigneur, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Il faut connaître le Seigneur Jésus. Et surtout, la chose la plus importante, combien il y a de gens qui ont dit, est-ce que tu connais Jésus-Christ? Ah oui, je le connais. Mais la question qu'il faut se poser, c'est, est-ce que lui, il vous connaît? C'est ça la question. Ce qui compte, c'est que ce soit lui qui nous connaît. Vous connaissez le président Macron? Vous le connaissez ou pas? Mais lui, est-ce qu'il vous connaît? Ah non. C'est exactement ça. C'est ça qui compte. Dieu veut que nous comprenions son salut. Son salut. Dieu veut que nous ayons l'assurance du salut. Que nous puissions dire, oui, si je meurs maintenant, je vais directement dans les bras de Dieu. Que je suis sauvé. C'est ça, avoir l'assurance du salut. Demandez aux gens qui n'ont pas cette foi en Jésus-Christ. Si tu meurs maintenant, qu'est-ce qu'il t'arrive? Ah, Dieu seul le sait. Non, moi je le sais. Parce que Dieu, il me le dit dans sa parole. C'est ça, comprendre bien le salut. C'est avoir cette assurance. Hein? Et il y a, quels sont les points principaux de ce salut? Hein? Faut bien, pour bien le comprendre, il faut connaître les points de ce salut. Le premier point, c'est que il faut que nous nous rendions compte que nous sommes des pécheurs. Mais oui. Nous avons fait des choses désagréables vis-à-vis de Dieu. Nous avons péché. Et il nous a dit le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Et celui qui a péché, il sera loin de Dieu éternellement. Parce que Dieu et les péchés, ils vont pas d'accord. Que nous sommes des péchés. Que nous sommes des pécheurs. Nous avons péché. Et à cause de ces péchés, nous méritons la mort. Et il y a aussi à savoir pourquoi est-ce que nous pouvons avoir la vie éternelle. Car Jésus-Christ, il est mort à notre place. Il est mort, il a été enseveli, et il est ressuscité. Pourquoi est-il ressuscité? Mais pour nous montrer que Dieu, il a accepté ce sacrifice. Il est mort à notre place. C'était notre place là sur la croix, pas Jésus. Lui, il a dit, qui me convaincra de péché? Et vous savez, dans la loi mosaïque, il y avait 613 commandements. Et pourtant, c'est le seul homme qui a pu dire, qui de vous me convaincra de péché? J'ose pas vous le dire à vous, pour moi. Hein? Je suis sûr que tout le monde se lèverait. Mais la personne ne s'est levée. Pourquoi? Parce que Jésus, Il a été le Fils de Dieu, obéissant à Dieu en toutes choses. Et il a observé la loi pour chacun de nous. C'est ça le salut. Et il nous est dit aussi dans ce salut que si nous acceptons cela, Dieu, il nous pardonne. Il nous pardonne. Car Dieu est amour. Dieu, il désire notre bonheur, pas notre malheur. Voilà pourquoi il veut que nous sachions que, ici-bas, sur cette terre, nous avons l'assurance que si notre vie s'arrête, nous irons directement au ciel. Voilà pourquoi il faut bien comprendre le salut. C'est ça le message du salut. Si on accepte Jésus-Christ, Dieu, il nous assure le salut, il nous assure le pardon, le salut, la vie éternelle, le repos, la joie. C'est ça que le Seigneur il nous dit. Hein? Deuxième chose qu'il faut, la deuxième étape, une fois qu'on a eu ces choses-là, qu'on a bien pris compréhension de notre salut, de ce qu'est le salut, la deuxième étape, c'est de trouver une église qui enseigne la Bible. Une église qui enseigne la Bible. Pourquoi? Parce que vous êtes enfant de Dieu. Donc vous devez fréquenter un endroit où la parole est prêchée. Où les gens, lorsqu'ils prêchent, ils n'ont qu'une seule chose devant leurs yeux, la Bible. Car la Bible, c'est le livre d'amour que Dieu il nous a donné pour que nous puissions mener une vie à lui agréable. C'est ça. Et aussi, dans cette église, il faut chercher d'abord les gens qui ont cette même assurance que nous. Il faut fréquenter les gens, trouver dans notre région, dans notre ville, dans notre pays, un endroit où tous les enfants de Dieu se réunissent. Et pas se dire, oh, moi je reste à la maison, j'étudie la Bible à la maison. Ça ne se fait pas. Si on est chrétien, on doit fréquenter un endroit où la parole est prêchée, où les enfants de Dieu se réunissent. C'est ça que Dieu il nous dit, hein? Et il est très important. Pourquoi? Parce que l'Église, c'est la réunion du peuple de Dieu. Déjà, le mot Église, hein, je vous le répète si souvent, hein, c'est ceux qui ont été retirés du monde, ceux qui ont été sortis du monde. Comment on est sortis du monde? Jésus-Christ nous a rachetés. Et nous n'appartenons plus. Jésus, il nous le dit, hein, je ne suis pas du monde, et vous non plus, vous n'êtes pas du monde. Nous sommes dans le monde parce que nous y vivons. Et Paul il nous le dit, chapitre 12, « Ne vous conformez pas au monde. » Nous y sommes, mais nous ne devons pas vivre comme le monde. Et combien il y a des gens, des chrétiens, qui se disent chrétiens, qui vivent selon le monde. Ils ne font pas attention à ceux qui sont autour d'eux. Il y a des gens qui s'habillent comme le monde. Et tout ça parce que ils s'habillent comme ça parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. L'Église, c'est la maison de Dieu. C'est là que tous les enfants ils sont réunis. Voilà pourquoi c'est très important. Hein? Une Église qui enseigne la Bible. Et le troisième, pourquoi dans une église? Parce que un enfant de Dieu, un chrétien, il doit louer Dieu. Il doit louer Dieu. La louange. Pourquoi doit louer Dieu? Parce que lui seul mérite d'être loué, remercié de tout ce qu'il a fait pour chacun de nous. Et Apocalypse 4, 11, il nous déclare au Seigneur, il dit, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent. Ça, c'est Dieu qui nous dit ces choses-là. Le monde, il nous dit exactement le contraire. C'est, on leur dit, Dieu a créé toutes choses, t'es dit, mais tu es fou, toi. Un peu comme a dit Agrippa à Paul. Il a montré la grandeur de Dieu, tout ce que Dieu l'a fait. Il a dit, ah, bientôt tu vas me convaincre de devenir chrétien. Tu es fou, Paul. Ta grande sagesse, elle te fait dérailler. Mais Paul, il avait la sagesse de Dieu. Et il a dit, je souhaite que vous tous qui êtes là, vous deveniez comme moi. Pas comme moi, comme je suis maintenant, dans l'échelle. Mais que vous soyez enfants de Dieu comme moi. Voilà là ce qui est très important. Troisième étape, c'est de prendre un moment chaque jour, hein, pour nous recueillir devant Dieu. Soit les matins, soit les soirs, mais chaque jour, n'oublions pas Dieu. Ça ne vous est pas arrivé de ne pas penser à Dieu pendant toute la journée? C'est arrivé, oui. Malheureusement pour nous, quoi. On s'est souvenu les soirs, il a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu? Est-ce que je l'ai prié? Est-ce que je l'ai loué? Est-ce que ma vie a glorifié Dieu? Vous savez pourquoi Dieu il nous a créés? C'est pour lui, le glorifier. Pas pour autre chose. Et chaque fois que nous ne le faisons pas, nous manquons toutes ces choses-là. Priez constamment. Priez toujours, il nous a dit. Priez toujours. À la maison. Jésus, il nous le dit, quand rentre dans ta chambre, ferme la porte. Vous n'êtes jamais demandé pourquoi il a dit de fermer la porte? Pour ne pas être dérangé par notre téléphone, par nos amis, par toute autre chose. Pourquoi? Parce qu'on est en communion avec Dieu. C'est ça, prier et la lecture aussi de la parole. Comment est-ce que nous lisons la parole de Dieu? Comment est-ce que nous la méditons? C'est ça. Est-ce que nous lisons... Il y a des moyens de lecture, hein? Vous en trouvez partout, hein? Un chapitre, deux chapitres. C'est tout. Ah, j'ai lu ma Bible. Je lis deux chapitres par jour, ça va. Et ensuite, on repose là. Il faut le lire et méditer. C'est demander toujours, qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Qu'est-ce que tu as préparé pour moi? C'est ça que sert la parole de Dieu. Et des gens, ils se disent chrétiens. Ils ne la lisent pas, ils ne l'ouvrent même pas. Il y a des gens qui l'oublient dans la Bible, ils l'oublient dans l'Église, la Bible. Et ils ne la réclament pas. Vous me direz peut-être qu'il a une autre Bible. Mais c'est ta Bible qu'elle est là. C'est ça. C'est comme ce pasteur qui avait été rendre visite à une famille. Il parlait. Alors le pasteur a dit, mais est-ce que vous lisez la Bible? Ah oui. Il a dit, tiens chérie à sa fille, va dans la petite table à côté du lit, ramène-moi le livre que je lis tous les soirs avant de m'endormir. La fille, elle va, elle revient, avec le programme télé. Voilà. C'est ça. Ou sinon, on la met dans sa bibliothèque. Ah, ça fait bien, hein, la Bible, voilà. Je l'ai là. Hein? Georges Müller, avant de mourir, il a dit, le seul regret que j'ai, c'est d'avoir lu la Bible que 200 fois. Combien de fois nous avons lu la Bible? Sûrement pas 200 fois. Hein? Moi, je me mets avec vous. Hein. C'est ça. Quatrième pas, c'est de développer des relations avec des gens qui peuvent nous aider spirituellement. C'est-à-dire chercher les frères et sœurs qui sont en avance dans l'étude, dans la méditation, et demander de l'aide. Mais j'ai bien dit à des frères ou sœurs, hein, demandez à des gens qui fréquentent votre propre église, qui ils entendent les mêmes prédications, qu'ils croient les mêmes choses. Parce que si vous demandez à quelqu'un qu'il est dans une autre église et il prêche, il donne un autre enseignement, ça va bousculer nos têtes. Voilà pourquoi il faut chercher en Corinthiens 15, 33. Regardez ce qu'il nous dit. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il faut fréquenter les gens qui sont spirituels. Encore une fois, on est dans le monde, on fréquente ceux du monde. Mais lorsqu'on a des besoins, il faut aller demander à des frères et sœurs qu'ils peuvent nous apporter la réponse. Ou sinon, nous tourner vers Dieu. Et un jour et un moment, Dieu, il va nous révéler. On appelle ça la révélation. L'illumination, pas la révélation. L'illumination. La révélation, c'est Dieu qui le donne dans sa parole. Mais l'illumination, c'est toujours Dieu qui le donne. Mais lorsque on recherche, ça vous est jamais arrivé de lire un passage et de ne pas bien le comprendre, vous passez tout de suite, mais vous le relisez, à un certain moment, vous dites, ah, voilà, le Seigneur, il te donne l'explication et il te fait comprendre. Pourquoi? Parce que tu as été près de lui. Parce que tu l'as cherché. Cherchez-moi et je vous révélerai des grandes choses. Pourquoi est-ce qu'on lit la Bible? Une fois qu'on a lu, on la relit, on la relit, on la relit, on la relit. Parce qu'il y a tellement de choses à connaître. Et Dieu, il nous dit, cherche-moi. Et je te montrerai toutes ces choses-là. Si on ne cherche pas Dieu dans sa parole, nous n'aurions jamais de révélations. Nous resterons toujours, comme on l'a vu dans les études les dimanches, hein, des enfants. Comme Jacques, il avait dit, j'aurais voulu vous parler du salut. Il a dit, mais vous ne le pouvez pas, parce que vous êtes encore charnel. Mais le Seigneur, il demande exactement, il faut essayer de trouver un ami ou deux, des gens de notre Église, pour qu'ils puissent nous aider à avancer. Je ne vous dis pas d'aller voir les pasteurs, hein, mais des gens de notre Église. Hein, et toutes ces choses-là. Et il faut demander afin qu'ils viennent nous aider. Car on a tous besoin d'aide pour comprendre la parole de Dieu. La cinquième étape, c'est se faire baptiser. Eh oui. Si on se dit chrétien, on doit se faire baptiser. C'est l'ordre du Seigneur. Hein? Et baptiser, c'est immerger. Baptiso, c'est immerger. Pas jeter de l'eau. C'est pas le baptême, ça. Ce n'est pas les baptêmes. Les baptêmes et la façon biblique. Vous savez, les baptêmes, je vous l'ai déjà dit, c'est un témoignage public. Je suis sûr qu'ici, il y a des gens qui ont accepté le Seigneur Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Mais personne ne le sait. Ils le gardent. Ils sont sauvés. Hein. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas sauvés parce qu'ils n'ont rien dit. Hein. Mais voilà pourquoi il faut qu'ils se baptisent. Parce que le baptême, c'est un témoignage public. Lorsqu'on se fait baptiser, on invite la famille, on invite les amis, on invite tous ceux que nous connaissons, peut-être, s'ils veulent venir. Hein. Pourquoi on les invite? Pour leur dire, ben voilà, je n'appartiens plus au monde. J'ai accepté Jésus-Christ et j'appartiens à Dieu maintenant. Pierre, il nous le dit, c'est un témoignage. C'est-à-dire un témoignage de vivre ce que Jésus, il a vécu. Il est mort, il est enseveli, immergé, et il revient à la vie. C'est ce qu'il a fait Jésus. Voilà pourquoi c'est très important de comprendre ces choses-là. Un chrétien, il faut l'être, et pas le paraître. Pas le paraître, l'être, le vivre. Voilà qu'est-ce que c'est qu'un chrétien. Et encore une fois, un chrétien, il met en valeur sa vie. Comme Antioche, les gens, en regardant les disciples de Jésus-Christ, il a dit, voilà le chrétien. Peut-être qu'il le disait à ce moment-là, d'une façon pour se moquer. Mais ce nom, il aurait resté des chrétiens, Christianus. Les ânes de Christ, ceux qui portent Christ. En regardant les disciples, ils voyaient Jésus-Christ. Voilà un chrétien. Et c'est à chacun de nous de réfléchir. Le suis-je? Où vais-je le devenir? Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Que chacun de nous il puisse se voir au plus profond de lui-même. Et se dire s'il est en connaissance de ces étapes. Est-ce qu'il est passé par ces étapes? Et il n'y a aucune étape qu'on peut éviter. Hein. Dis, je prends la deuxième, la troisième, la quatrième, je ne la passe pas. Ou la cinquième, je ne la prends pas. Il faut prendre les cinq. C'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Que nous prenions conscience de ces choses-là, que nous puissions prendre conscience de ces choses-là et que nous puissions répondre et se dire, est-ce que je suis chrétien ou est-ce que je ne le suis pas? Si tu l'es, encore une fois, gloire à Dieu, mais si tu ne l'es pas, il faut faire les choses qu'il faut. Car le temps est mauvais. Bientôt, le Seigneur, il va venir. On voit les signes tout autour de nous de cette prochaine venue. Et je vous invite à venir le mercredi. Bientôt, on va parler de cela. Le temps de la fin. Et nous devons connaître ces choses-là. Car comme on dit le proverbe français là, homme averti, je ne m'en souviens plus. Voilà. Voilà pourquoi la Bible nous avertit sur ces choses-là. Et c'est à chacun de nous de prendre garde à cela. Que le Seigneur nous aide à y répondre à cela. Amen.